Commencer l'après-midi. D'abord, trois informations. Il y a quelqu'un qui a perdu un pass Navigo qui s'appelle Aline Morel. Donc, si Aline Morel est dans la salle ou si vous la connaissez, voilà. Le pass est là. Deuxième information, l'équipe, vous l'avez vu dans le film, l'équipe marseillaise les saltimbanques, le cri des saltimbanques produit une feuille de chou. Et donc, il y a un numéro spécial sur la pérennisation. Donc, c'est un jeu de mots, pérennisation. Voilà, je ne dis peut-être pas très, très bien. Il y a 30 exemplaires qui sont à l'extérieur. Vous pouvez en prendre et sinon on peut vous l'envoyer sous format informatique. Donc n'hésitez pas à me solliciter, je ferai le lien. Et dernière information, n'oubliez pas de remplir la feuille sur l'évaluation. C'est important pour nous d'avoir des retours sur ce que vous pensez de nos ateliers. Donc s'il vous plaît, essayez de ne pas oublier de remplir cette feuille. Donc ce que je vous propose, ça va faire rentrer tout le monde, c'est de démarrer l'après-midi. Donc cet après-midi sera consacré à un temps beaucoup plus sur l'activité des équipes. Donc il y a certaines questions qui ont été posées ce matin et dont les réponses, j'espère, vous seront apportées cet après-midi. On va avoir trois séquences cet après-midi. Une première séquence où je vais présenter des résultats d'activité, suivie d'une table ronde avec quelques membres des équipes sur certaines thématiques qui nous semblaient des thématiques phares, avec des présentations courtes de 5 minutes et des questions-réponses avec vous. Ensuite, une présentation du Working First, c'est-à-dire le soutien en emploi qui s'est fait sur Marseille et les liens avec le chez-soi d'abord. Et puis, une dernière séquence sur la généralisation du dispositif. Enfin, en conclusion, comme je vous le disais, nous aurons l'avis de Monsieur Gégère. Pardon ? Ah, et enfin, il y a un portable qui est tombé en dessous. Donc, dernière annonce pour, voilà, si quelqu'un a perdu son portable, il est là. Alors, voilà. Sur cette présentation sur... C'est pour vous ? Parfait. Donc voilà, il a trouvé preneur, il ne reste plus que le pass Navigo. Voilà. Sur cette séquence de l'après-midi, en fait, on a beaucoup parlé de la question du modèle ce matin. Vous avez eu les résultats de la recherche, à la fois quanti et quali, et moi je souhaitais répondre avec quelques éléments à deux questions. Est-ce qu'on a mis en œuvre sur le terrain le modèle attendu ? Donc je vais vous donner quelques éléments qui me laissent à penser qu'on a bien mis le modèle attendu en place sur le terrain. Et puis une autre séquence sur les points de vigilance pour la pérennisation du dispositif. Et la question en fait que je me suis posée rejoint la question qu'a posée Pascal Hoquier, c'est-à-dire au fond, ainsi que les intervenants de ce matin et Monsieur Mathieu, c'est-à-dire de l'efficacité à l'effectivité, est-ce qu'on peut maintenir les effets positifs hors de la situation expérimentale ? Et pour ça, de quoi a-t-on besoin ? Alors juste en rappel, mais vous connaissez tous le programme, je vous montre les quatre sites, Lille, Marseille et Paris, qui ont participé à l'expérimentation. Sur l'activité des équipes, on a beaucoup insisté sur la question de la pluridisciplinarité. On a en moyenne, effectivement, comme il a été dit ce matin, un peu plus de 11 ETP sur les 5 ans pour le volet accompagnement et autour de 2, 2,5 pour le volet logement. Avec, vous voyez, globalement, on a en moyenne et sur l'ensemble des sites, un personnel médical, social, infirmier, des médiateurs de santé pairs. On était parti sur 2 ETP, mais on n'a pas réussi forcément sur en moyenne à avoir 2 ETP sur les sites, parfois des psychologues, et puis sur la gestion locative, des professionnels de l'accompagnement, de la gestion locative, et puis tout ce qui est autour des travaux, qui est un point très, très important. On a posé la question de l'intensivité du suivi. On a effectivement, alors l'intensivité, c'est le nombre de visites au domicile, mais aussi le fait que les équipes ne lâchent pas et qu'elles vont régulièrement voir les locataires et les mobiliser. On a plus de 2000 contacts annuels et on voit qu'il n'y a finalement que pour 10% des personnes qu'on a moins de 4 contacts par mois. Et là, on est bien dans le modèle. Pardon ? Mensuel, pardon, mensuel, excusez-moi. Contact mensuel et non pas annuel, veuillez m'excuser. Sur les types de contacts, alors il y en a beaucoup, mais c'est juste pour insister, je ne sais pas si la flèche marche, ouais. Pour insister sur le fait qu'on a beaucoup de visites à domicile, du temps de lien téléphonique et puis après des interventions dans diverses situations et qui montrent bien en fait que les équipes vont bien au-devant des personnes et on est essentiellement sur du soutien, du lien, des interventions logement, social et de l'aide au quotidien et aux loisirs. Sur le maintien dans le logement, donc vous avez vu les graphes de la recherche, on a 85% des gens qui sont dans le logement à 24 mois. On s'est posé la question, mais si au-delà des 24 mois, donc à 4 ans, puisqu'on a quand même un recul de 4-5 ans, bah on a effectivement de la même façon... Alors, si on enlève évidemment la question des personnes qui sont décédées, malheureusement, on a vu qu'on a 8% de gens qui sont décédés et puis des gens qui n'ont finalement pas été inclus au démarrage, qui ont très rapidement refusé l'inclusion. On a, au bout de 4 ans, près de 80% de gens qui sont toujours logés et on a... Après, on le voit sur ce graphe, des situations diverses à certains moments. Donc, un maintien, quelle que soit la situation résidentielle de la personne, un maintien du suivi, et ça aussi, c'est dans le modèle. Et donc, on va avoir des gens qui temporairement vont être hospitalisés, vont aller sur des structures de l'urgence ou des structures temporaires ou en maison relais, mais qui vont continuer à être suivis. Et la grande majorité, vous le voyez, quasiment la totalité des personnes restent logées par le service. Après, sur le logement, il y a eu des questions. Alors, globalement, mais après, les équipes pourront y répondre de façon plus pointue. On a un accès dans le logement en 28 jours en moyenne, avec des situations qui sont... Okay, voilà, c'est la médiane, en fait, les 28 jours. Donc, un accès rapide dans le logement. Vous voyez le nombre de logements captés. On a capté beaucoup plus de logements que de personnes logées. Effectivement, le relogement est un outil fondamental du programme, avec du coup un turnover qui est doublé par rapport, enfin, notamment dans les premières années, si on compare avec les dispositifs classiques d'intermédiation locative. Et donc, il faut une attention très particulière pour les gestionnaires logements sur ce point-là et respecter le choix de la personne. On est essentiellement sur le parc privé. Il y a une question sur les glissements de baux. Aujourd'hui, on est entre 10 et 15% de glissements de baux. C'est un travail qu'on a commencé, non pas dans les premières années, parce qu'on était occupé par pas mal d'autres choses. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui se met en place. Et puis, une inscription prioritaire dans les contingents préfectoraux et municipal pour Paris, ce qui est une très bonne nouvelle maintenant. L'accompagnement, on a un accompagnement sanitaire avec une traduction sur des personnes qui sont suivies dans le droit commun. Sur le plan qualitatif, on en a parlé ce matin, mais ce qui ressort des équipes, c'est ce que voit la recherche, c'est que globalement, les gens se ressentent qu'ils sont mieux. Quand il y a des périodes difficiles, elles sont plus courtes, il est plus facile de les gérer. Ça a été dit aussi dans le film, mon témoignage, les gens ont des droits, des ressources. Et tout ce qui est autour de l'insertion et de la lutte contre l'isolement passe par le développement de réseaux, et notamment autour de réseaux d'autosupport. Alors, je vous ai parlé de la fidélité. On a aussi utilisé la même échelle qui a été utilisée au Canada et puis aux États-Unis. Donc, sur ce modèle très spécifique, Pathway to Housing. Donc, c'est une échelle de 38 items sous forme d'auto-questionnaire. Elle permet de regarder des éléments essentiels comme le respect du choix du logement, le fait qu'on sépare bien la notion de logement et d'accompagnement, c'est-à-dire que quelle que soit la situation, on continue à suivre la personne et même si elle ne souhaite pas se traiter, on continue à la loger. L'absence d'obligation d'être prêt à être logé et puis tout ce qui est autour de la réduction des risques et le rétablissement, c'est une étude qui date de 2016. Si vous voyez les résultats, en fait, on a des résultats qui sont à peu près comme ceux des Canadiens d'ailleurs, relativement positifs sur les différents items. Alors vous avez la moyenne et puis vous avez les quatre sites que j'ai pas nommés d'ailleurs. J'ai mis les numéros et en fait, globalement sur tout ce qui est choix et structure du logement, sur tout ce qui est séparation logement et service et puis philosophie de la prestation de service, on est sur des résultats très très positif. Et on a quelques points où il y a plus de difficultés. Et je vais vous le... Voilà. Et donc, quels sont les points où on a des écarts? Alors, déjà, par rapport à la comparaison entre les sites, les gens qui ont répondu à l'enquête, on a à peu près des personnels que, en termes de nombre de formations et de professions qui sont relativement semblables. Donc, on est sur des sites homogènes. Les écarts viennent de la question de la disponibilité du logement, qui explique qu'il peut y avoir du retard dans le temps d'entrée dans le logement. L'orientation, tout ce qui fait aussi un des objectifs du programme, c'était de travailler vraiment à ce que les gens puissent avoir les prestations dans le milieu ordinaire ou dans le droit commun, enfin peu importe le terme, qu'on ne crée pas des filières spécifiques. Et donc, plus le site a développé de partenariats, plus c'est facile. Donc ça fait une des différences suivant certains sites. Et puis la présence ou pas de médiateurs dans l'équipe et la participation des locataires aux instances de gouvernance. Pauline en a parlé, mais c'est vrai que ça aussi, ça fait partie des points qu'il faut améliorer. Les limites de l'enquête, on a fait un travail de traduction avec des relectures, etc. Le temps qu'on a utilisé pour cette enquête, le fait qu'on a un dispositif d'intermédiation locative qui est quelque chose qui est très positif, mais qui peut avoir aussi un impact sur... Effectivement, on arrive à loger facilement les gens avec derrière la question du glissement du bail. Et donc, on a un décalage par rapport à notamment les Canadiens, comme expliquait Eric, qui ont directement logé les gens avec un bail direct. Donc effectivement, nous, on a un temps très très court de logement, mais c'est après qu'on peut avoir des difficultés. Voilà, et puis c'est moi qui ai fait cette évaluation, donc il y a le biais d'avoir peut-être une vision qui n'est pas totalement objective. Alors, ce qui est intéressant, c'est peut-être pour la pratique, parce que certains d'entre vous vont monter des équipes, c'est qu'est-ce qui favorise cette fidélité au fond? Alors, c'est sûr que vous avez un modèle, mais après, derrière, qu'est-ce qui va faire que ce sera plus facile ou pas de l'appliquer? La première chose qui est vraiment quelque chose de totalement fondamental, c'est le partage des valeurs du programme. Le programme, c'est pas un dogme. Le programme, c'est pas, voilà, c'est pas l'alpha et l'oméga de l'accompagnement. Mais en tout cas, si on veut que ça marche, il faut qu'on soit au moins d'accord à minimum sur ces valeurs et pour l'ensemble des parties prenantes, que ça aille des directions, aux équipes, aux personnes qui participent. Sinon, c'est des modèles très complexes et si on n'est pas d'accord au départ sur ces valeurs qu'on peut effectivement critiquer, après on peut prendre ce temps, ça veut dire qu'il faut du temps pour se l'approprier. Mais ça, c'est un point fondamental. Je crois que les Canadiens avaient aussi retrouvé les mêmes éléments. Être sur la pluridisciplinarité, donc sur un management qui est très collaboratif et on est vraiment sur un principe de coordination et non pas de chef d'équipe. La formation des équipes est fondamentale, le partenariat doit être le plus large possible et puis ces équipes s'améliorent avec le temps, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène d'apprentissage avec le temps et plus on a de la stabilité dans les équipes, plus c'est facile au fond. Voilà. Et c'est important de pouvoir éviter d'avoir trop de turnover. Alors il y en a toujours, mais à chaque fois qu'on perd quelqu'un, on perd aussi des compétences d'un apprentissage et il y a nécessité de faire attention à ce turnover. Ça, c'est tous les facteurs qui sont favorisants. Dans les facteurs bloquants, bien sûr, c'est la disponibilité du logement. Il peut y avoir toutes les contraintes externes au territoire qui sont importantes de travailler en amont. La question du métier de médiateur de santé pair, on va vous en parler là dans deux minutes à la tribune. Et puis le fait, Pauline l'a évoqué, que la question du rétablissement, Eric en a parlé aussi, c'est quelque chose qui est minoritaire en France. C'est en train de venir, on voit avec les nouvelles dimensions là qui sont en cours avec le Conseil national de santé mentale, le rétablissement arrive, mais ça reste quand même quelque chose de minoritaire et donc ça peut être parfois un frein. Alors, les enseignements du programme, on vous l'a dit, je ne répète pas, donc il y a une amélioration globale, même si elle est sur les deux bras, elle est aussi pour les personnes. Le fait qu'à 85%, à deux ans, les gens restent logés, l'enseignement majeur, c'est que il n'y a pas de critères qui permettent de dire ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Donc ça veut dire si les gens ont vraiment envie d'aller dans un logement, quelqu'un a posé la question ce matin, mais est-ce que les gens avaient envie? C'est évidemment la première chose, quoi. Si les gens ont envie d'être logés, il faut essayer et c'est ça qui... Voilà, il n'y a pas de critères et c'est la nature de l'accompagnement et l'intensivité de l'accompagnement qu'on va adapter derrière. Les personnes sont vraiment expertes de leur propre parcours et il faut leur faire confiance. Ça permet de sortir d'une logique de survie. Ça permet aussi de faire converger des logiques individuelles et des réponses institutionnelles. Puis ça décloisonne. C'est vraiment l'objectif du programme. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un management très horizontal pour que on puisse décloisonner. C'est pour ça qu'on a fait un certain nombre de choix dans le décret. J'en parlerai tout à l'heure. Et les interventions sont vraiment basées sur le quotidien des personnes. Voilà. Et ça permet d'avancer finalement sur des modalités qu'on appelle un peu d'essai-erreur, en ayant la possibilité de faire cet essai et d'avoir la réversibilité, c'est-à-dire la perte à un moment donné du logement n'est pas du tout un échec, c'est un apprentissage de choses et on repart sur autre chose avec un accompagnement adapté. Alors les points de vigilance, on l'a vu, c'est la réflexivité et la flexibilité des équipes, c'est d'avoir le plus large éventail possible de partenaires. Il faut aussi lutter bien sûr contre les questions de discrimination, la question des médiateurs, mais j'y reviens pas. L'accès à l'emploi est un point important, c'est pour ça qu'on va vous en parler tout à l'heure. Et puis bien sûr la disponibilité des logements et des logements financièrement accessibles. Il y a eu des incidents, bien sûr, sur les sites. On n'est pas non plus sur un parcours sans aucun incident. Ils n'ont pas finalement été si, entre guillemets, importants que ça. Et on avait des craintes au démarrage. Par contre, effectivement, on en a aussi parlé. Il y a la question de la mortalité qui montre la grande vulnérabilité des personnes et donc la nécessité d'avoir des mesures de prévention adaptées et puis d'agir le plus tôt possible. Parce qu'au fond, c'est de la mortalité évitable. Et en termes de santé publique, c'est important avoir conscience. Voilà, c'était un petit peu rapide, mais ça permet de checker toutes ces questions-là. Ce que je vous propose pour... on est en début d'après-midi, donc on va mettre un peu d'autres personnes qui vont venir à la table ronde. Je vais demander aux équipes, à des personnes des équipes de me rejoindre pour faire des focus sur des points particuliers. Donc on avait Aline, Angela, Mathilde, Christopher, Christophe et Sylvie qui vont me rejoindre. Comme ça, je me sentirai moins seule. Et puis, voilà.
Il y a les micros à chef.
Alors, comme ça, je vais rester debout, ce sera plus simple. Ce qu'on vous propose sur cette séquence, c'est que... je vais mettre là. On voudrait illustrer un petit peu ces questions-là avec des petits focus de 5 minutes avec des membres des équipes. Et puis, je vais... limiter la parole, donc vous m'en excusez par avance, parce que je vais être très frustrante probablement. On va faire ces petits focus, et puis après, je vous proposerai une séquence de questions-réponses. Donc déjà, on va demander à Aline, qui est au milieu, ça tombe bien, de nous dire quelques mots. Alors, on a choisi ces éléments-là, la notion du choix, et en premier, on va lui demander de nous donner quelques éléments sur cette notion du choix. Et comment ça se traduit dans le programme en 5 minutes, s'il te plaît. Aline, tu as la montre en face de toi, c'est merveilleux. Donc voilà.
Top chrono. Bonjour à tous. Déjà, je m'appelle Aline Belkadi et donc je suis conseillère en économie sociale et familiale dans l'équipe du programme parisien. Donc je vais vous parler de la notion de choix qui est un axe fondamental dans le programme Un chez soi d'abord. Donc toujours dans une logique d'empowerment, un des piliers de l'accompagnement des personnes du programme, c'est de favoriser la capacité à faire des choix. Dans la revue Santé mentale de novembre 2016, on peut lire que l'empowerment décrit le processus par lequel l'individu acquiert du pouvoir d'agir, prend le contrôle sur sa vie, apprend à faire ses choix et participe aux décisions le concernant. Donc la clé de l'empowerment se trouve dans la transformation des rapports de force et des relations de pouvoir entre les individus, les groupes, les services et les gouvernements. Donc dans cette idée de recherche d'un nouvel équilibre, redonner le choix à la personne ou considérer que la personne est en mesure de faire ses propres choix, c'est donc en quelque sorte accepter que ce choix ne soit pas fait par les professionnels à leur place, mais bien que le choix soit fait par la personne et soit accompagné par l'équipe. Il s'agit donc de favoriser le processus d'autonomisation qui est à l'œuvre dans la philosophie du rétablissement, en trouvant, si besoin, un espace de négociation avec le locataire. Alors, l'idée de choix est à mettre en perspective avec les notions de droit, de devoir et de responsabilité personnelle. Quand on laisse le choix aux personnes, il faut leur permettre de faire un choix éclairé. Donc un choix entre différentes options ou possibilités acceptables, ce qui permettra de faire un vrai choix et d'en assumer les répercussions. C'est l'exemple, par exemple, de proposer des appartements à des niveaux de loyer différents pour une personne en fonction de ses ressources. Laisser le choix à la personne, c'est donc aussi lui avoir donné la possibilité de réfléchir à l'avenir et aux conséquences, qu'elles soient positives ou négatives, hein, ce qu'on peut appeler aussi les risques, qu'elle va encourir en fonction de son choix. L'individu ne peut prendre des décisions justes et éclairées que s'il détient suffisamment d'informations pour évaluer les conséquences éventuelles de chaque option. Par exemple, le fait de souscrire ou pas à une mutuelle. Donc, évidemment, souscrire à une mutuelle, ça a un coût, mais il faut expliquer à la personne ce qu'elle risque en cas d'hospitalisation, par exemple. Dans les équipes, la technique de l'entretien motivationnel pourra être utilisée pour amener les personnes à trouver les avantages et les inconvénients de ce choix. Autre point important par ailleurs, si on laisse le choix aux personnes, il faut accepter la prise de risque commune et donc faire en sorte que l'équipe accompagne cette prise de risque. Le choix dans le programme Un chez soi d'abord, c'est un outil qui est utilisé dans tous les domaines de l'accompagnement et à tous les moments du processus de rétablissement et d'inclusion sociale de la personne. Ce choix et ces prises de décision sont très variables et leurs conséquences seront donc à respecter et à accompagner par les professionnels afin de favoriser au maximum l'empowerment des personnes. On aura tendance du coup, par exemple, à donner le choix à la personne au niveau du choix de l'agenda ou de la fréquence des rencontres avec l'équipe. Donc le locataire a la possibilité de rencontrer l'équipe autant que de besoin. Ça peut être plusieurs fois par semaine, voire des appels téléphoniques le soir et le week-end sur l'astreinte, à une rencontre par semaine, voire tous les 15 jours ou tous les mois par la suite. À cela, il est important aussi de respecter la temporalité de la personne. On a par exemple une personne qui met, à chaque fois qu'on vient la voir, elle met 15 minutes à nous ouvrir la porte. On entend qu'elle est derrière, elle nous dit « oui, j'arrive », et bien on attend et on ne la presse pas. On donne aussi le choix au niveau matériel, ça va être le choix au niveau des appartements. Alors même si sur Paris, bien sûr, le choix est un peu plus restreint, mais on essaye de s'efforcer quand même de faire des propositions et de donner le choix au niveau des étages de l'appartement, au niveau du quartier.